ne s'arrêtait pas, n'entrait pas, même quand, pendant 2 ou 3 semaines en août, les volets s'ouvraient sur une courette goudronnée où s'alignaient au cordeau 4 pots de géranium ou de pétunias, au moment où la mère avait été placée en maison, une machine à laver et une gazinière usagée leur étaient échues en partage à eux. Les 2 de Fridière, Paul et Nicole, n'avaient besoin de rien. Ils auraient le bien des oncles, terres et bâtiments. Ça venait du côté de la mère née elle aussi, la Fridière, sortie de là-haut pour tomber enceinte à 18 ans. Seule fille est tard venue après les oncles de 14 et 15 ans, ses aînés. Mieux valait ne pas reparler du partage entre la mère et ses frères. Paul et Nicole n'avaient pas eu à batailler, comme les autres, pour se faire une place ailleurs, chez des étrangers, avec un vrai patron et un loyer et des traites à la fin du mois. Ils s'étaient retrouvés casés là-haut, sans se donner trop de peine, à travailloter tranquillement. Avec la télé, les voitures et tout le confort, les paysans vivaient comme tout le monde maintenant, même dans ces coins perdus. Et les oncles, qui étaient de vieux célibataires organisés, aimaient leurs aises. On savait qu'ils avaient fait installer le chauffage central, et une salle de bain, et la parabole, on n'allait pas laisser des parts d'héritageux à des gens qui touchaient, en plus, toutes ces primes pour l'agriculture de montagne, et s'arrangeaient toujours pour crier misère. Non, mais alors, Nicole s'occupait des vieux de très officielle façon. Ses prestations tarifées étant encadrées par une association qui agissait dans tout le département en faveur des personnes seules, isolées, plus ou moins âgées, mais dont l'état de santé physique et mentale autorisait le maintien à domicile. Pour les femmes comme elles, sans formation ni expérience professionnelle reconnue, c'était une aubaine, une fière occasion qu'elle sut saisir, ne renâclant pas à accomplir, nécessité faisant loi, des tâches peu raboutantes ou singulières. On n'avait pas les moyens dans sa situation de jouer les mijaurées de salon. Elle remplit son carnet de bal et visita d'une ses ouailles, preste affairée, d'autant plus attendue qu'elle était une vivante gazette et s'entendait à discuter avec passion des affaires du pays, grandes ou petites, considérables ou mineures. On avait confiance, elle n'oublierait pas le traitement pour l'attention et penserait aussi aux 3 pieds de salade à repiquer dont elle ne savait plus que faire à Fridière avec ses acharnés du jardin qu'étaient les oncles. Nicole connaissait la carte et les gens, et c'était autre chose qu'une étrangère qui n'aurait pas su prendre langue ou se serait effarouchée à la première neige. On la réclamait, elle le savait, et toisant Annette du haut de son piédestal de femme qui gagne son argent, elle en tirait une sorte d'orgueil dont les oncles ne manquaient pas de se bosser à la première occasion, répétant à l'envi qu'ils avaient, à domicile et sans bourse déliée, la meilleure infirmière et dame de compagnie, électrice distinguée des 3 cantons. L'entrée en lice de la singulière mimicatée leur avait en effet fourni, des années avant l'arrivée à Fridière des 2 étrangers importés du Nord, un supplémentaire sujet de sempiternelle glose railleuse. Il ne fallait pas confondre la mimicatée avec la mimi du bourg, ou la mimite santoire des chasseaux, d'où l'adjonction solidement ancrée dans les mœurs du sobriquet limpide de Caté, attachée à la maisonnée depuis qu'une arrière-grand-tante de la dite Mimi, restée fille, était tombée en grave dévotion, secondant le prêtre de la paroisse dans la délicate mission d'inculquer à la jeunesse les rudiments de la religion avant de s'abîmer, corps et biens de famille compris à plus de 40 ans, dans un lointain Carmel de l'est de la France. De cette mimi catée surgit dans le hameau un âge incertain, on ne savait à peu près rien, on parla de retraite et de divorce, on s'exaspéra en vain avant de s'habituer à la voir vieillir, seule et peu amène, entre sa maison minuscule et les enclos pentus qui la flanquaient, enclos qu'elle sut transformer, diligente et infatigable, en potager plantureux. Si elle ne catéchisa point les enfants, elle éleva volailles et lapins, vivant chichement, du moins le supposait-on, de revenus incertains et de la vente de ses produits, dont la merveilleuse réputation eut au fait de se répandre. Les épouses cossues des vétérinaires, médecins et autres notables des environs se fournissaient chez elle, venant à domicile quérir les paniers garnis, tant il eût semblé incongru de voir la revêche mimicatée tenir un étal en un quelconque marché. Dépourvue d'homme, sans mari, sans fils, sans frère ni beau-frère, sans mâle protection d'aucune sorte, elle stupéfia la contrée, faisant l'homme et la femme, coupant son bois pour l'hiver et peaufinant la terrine de lapin, magistrale et vaguement crainte pour cette maîtrise silencieuse qui dépassait d'autant plus l'entendement ordinaire qu'elle n'eut jamais ni télévision, ni radio, ni voiture. On la savait abonnée à la montagne. L'écho des confins venait à elle par cette unique voix, et l'on apprit par Nicole qu'elle y goûtait au premier chef les pages de politique française et d'actualité internationale. comptant pour Bivezé les fastes tombolas de la maison de retraite de Riom-Vesmontagne et autres minces dithyrambes consacrées à la fête du Bleu d'Auvergne ou aux championnats régionaux de basket-ball. En sa 82e année, la Mimicatée, par ailleurs svelte et vigoureuse, ferme en ses chais et altière en son port, fut frappée de quasi-cécité, sans doute à la suite d'un léger accident vasculaire qu'elle ne voulut pas considérer. On la retrouva égarée dans son carré de pommes de terre. Elle fut emmenée à l'hôpital de Saint-Flour et en revint promptement, réorganisant aussitôt sa vie domestique, la resserrant autour de la maison, du dedans, comme un marin s'écarguait les voiles par gros temps, s'inventant des repères familiers, le toussant.